Aristote, de la respiration, suite. Chapitre 10. Sommaire. Modes divers du refroidissement nécessaire à la respiration dans les animaux qui ont des poumons et du sang, vivipares et ovipares. Le poumon et les bronchies ne sont jamais réunis dans un seul et même animal. Paragraphe 1. Ainsi donc, pour les animaux qui n'ont pas de sang, l'air ambiant pour les uns et le liquide pour les autres les aide à conserver la vie. Paragraphe 2. Parmi ceux qui ont du sang et un cœur, tous ceux qui ont un poumon reçoivent l'air et se procurent le refroidissement nécessaire par l'inspiration et l'expiration. Paragraphe 3. Or, tous les animaux qui sont vivipares au-dedans d'eux-mêmes, et non pas seulement au-dehors, comme les poissons cartilagineux qui font bien leurs petits vivants, mais qui ne les font pas dans leur intérieur, ont tous un poumon. Parmi les ovipares, le poumon se trouve chez tous ceux qui ont des plumes comme les oiseaux, et chez ceux qui ont des écailles, comme les tortues, les lézards et les serpents. Chez ces derniers animaux, le poumon est plein de sang, mais chez la plupart, il est spongieux. Aussi ont-ils plus rarement besoin de respiration, ainsi qu'on l'a dit plus haut. Paragraphe 4. Le besoin est aussi moins fréquent chez tous ceux qui restent longtemps dans l'eau, et ils peuvent vivre, comme les hydres, les grenouilles, les crocodiles, les radeaux, les tortues de terre et de mer, et les phoques. Tous ces animaux, et ceux qui sont du même genre, viennent se reproduire sur terre, et ils dorment à terre, ou bien aussi dans l'eau, en sortant leur bouche pour pouvoir respirer. Paragraphe 5. Mais ceux qui ont des branchies se refroidissent en recevant l'eau. On trouve les branchies dans l'espèce de poisson appelée cartilagineux et dans tous les autres animaux qui n'ont pas de pieds. Ainsi, tous les poissons sont sans pieds. Et en effet, quand ils en ont, ces pieds ressemblent tout à fait à des nageoires. Parmi les animaux qui ont des pieds, le seul à qui l'on connaisse des branchies, c'est le cordyle. Paragraphe 6. On n'a point encore vu d'animal qui ait à la fois un poumon et des branchies. Cela vient de ce que le poumon a pour objet le refroidissement causé par l'air que l'animal respire. Et en grec, le poumon semble avoir été appelé de ce nom précisément parce qu'il peut recevoir le souffle de l'animal. Or, les branchies ne se rapportent qu'au refroidissement que l'eau doit causer, mais un organe n'est jamais employé qu'à une seule fonction, et toujours une seule espèce de refroidissement suffit à l'animal. Par conséquent, comme évidemment la nature ne fait rien en vain, si les deux genres de refroidissement existaient ensemble chez un même animal, l'un des deux serait inutile. Et c'est là ce qui fait que ceux-ci ont un poumon, cela des branchies, et qu'un animal n'a jamais les deux organes à la fois. Chapitre 11. Sommaire. Rapport de la respiration à l'alimentation. La bouche sert aux deux fonctions chez certains animaux. Les branchies ne servent qu'à la respiration. Moyen qu'a pris la nature chez les divers animaux pour que la respiration et l'alimentation ne se gênent pas réciproquement. Rôle de l'aluette. Contraction du gosier chez les animaux qui n'ont pas cet organe. Paragraphe 1. Comme tout animal a besoin de nourriture pour vivre et pour se conserver, de refroidissement, La nature se sert pour ces deux fonctions du même organe. C'est ainsi que dans certains animaux, elle se sert de la langue et pour le sens du goûter et pour le langage. De même aussi dans les animaux qui ont un poumon, elle se sert de la partie appelée bouche, d'abord pour l'élaboration des aliments, puis pour l'expiration et la respiration. Paragraphe 2. Dans ceux qui n'ont pas de poumons et qui ne respirent pas, la bouche ne sert qu'à élaborer la nourriture et les branchies ne sont destinées qu'au refroidissement dans les animaux qui ont besoin de refroidissement. Paragraphe 3. Nous dirons plus loin comment l'activité des organes que nous venons de nommer arrive à produire le refroidissement. Paragraphe 4. Du reste, le mécanisme qui fait que l'alimentation n'empêche pas la respiration est à peu près le même et chez les animaux qui respirent et chez ceux qui reçoivent le liquide. Ainsi, ce n'est pas au moment même qu'ils respirent que les animaux prennent du même coup leur nourriture. Autrement, ils risqueraient d'être étouffés, parce que les aliments, secs ou liquides, s'égareraient dans le poumon par l'artère. Paragraphe 5. L'artère, en effet, est placée en avant de l'œsophage qui porte la nourriture dans ce qu'on appelle l'estomac. Chez les animaux qui sont quadrupèdes et qui ont du sang, l'artère a l'épiglotte qui lui sert en quelque sorte de couvercle. Mais il n'y a pas d'épiglotte dans les oiseaux, ni dans les quadrupèdes qui sont ovipares. Ils sont obligés de remplir l'office qu'elle ferait en contractant les parois du gosier. Paragraphe 6. Ainsi, quand les animaux ont pris leur nourriture, les uns contractent ces parois et les autres ramènent l'épiglotte par-dessus. Puis, quand la nourriture est passée plus avant, ceux-ci soulèvent l'épiglotte, ceux-là desserrent leur gosier et reçoivent alors l'air nécessaire pour les refroidir. Paragraphe 7. Les animaux qui ont des branchies repoussent par leurs moyens le liquide et ingèrent ensuite la nourriture par la bouche. C'est qu'en effet, ils n'ont pas d'artère. Et s'ils n'ont pas à craindre que l'irruption du liquide dans cet organe ne puisse leur nuire, ils ont à redouter que l'eau n'entre dans leur estomac. Voilà pourquoi ils rejettent si promptement le liquide et prennent non moins vivement leur nourriture. Ils ont les dents aiguës et ils les ont presque tous en scie car ils ne peuvent broyer leurs aliments. Chapitre 12. Sommaire. Organisation spéciale de la respiration chez les cétacés et chez tous les animaux à tuyaux, chez les crabes, les cancres, les seiches et les polypes. Paragraphe 1. Les cétacés, parmi les animaux qui vivent dans l'eau, pourraient offrir matière à quelques doutes, car ils ont, à ce qu'il semble, ces diverses fonctions réunies. Telles sont les baleines et tous les autres animaux qui ont ce qu'on appelle le tuyau. Ainsi, ils sont sans pieds, mais ils ont un poumon et ils reçoivent l'eau de la mer. Paragraphe 2. La cause en est celle que nous venons d'indiquer. Ce n'est pas en vue du refroidissement qu'ils reçoivent le liquide, puisque ce refroidissement leur est procuré par la respiration et qu'ils ont un poumon. Voilà aussi pourquoi ils dorment la tête élevée au-dessus de l'eau, et même les dauphins ronflent. De plus, quand ils sont pris dans des filets, ils ne tardent pas à mourir parce qu'ils ne respirent plus. Et souvent, on les voit se tenir à la surface de la mer afin d'y venir respirer. Paragraphe 3. Mais comme il leur faut nécessairement prendre leurs aliments dans l'eau, il faut nécessairement aussi qu'ils rejettent le liquide après l'avoir absorbé. Voilà précisément pourquoi ils sont tous pourvus du tuyau. Après avoir absorbé le liquide, comme les poissons, par les branchies, ils relancent par le tuyau l'eau qu'ils ont prise. Ce qui le prouve bien, c'est la position même du tuyau. Il n'aboutit à aucune des parties qui ont du sang, mais il est placé en avant du cerveau et c'est de là qu'il jette l'eau. Paragraphe 4. C'est aussi pour cette même cause que les mollusques et les crustacés reçoivent le liquide, quand je veux dire par exemple les crabes et les cancres. Aucun de ces animaux n'a besoin de refroidissement car ils ont tous fort peu de chaleur et n'ont pas de sang. Par suite, ils sont suffisamment refroidis par l'eau dont ils sont environnés, mais ils sont organisés ainsi afin que quand ils prennent leur nourriture, le liquide ne s'introduise pas en eux en même temps qu'elle. Ainsi donc, les animaux à écailles molles, tels que les crabes et les cancres, rejettent l'eau par les opercules placés près des parties velues. Paragraphe 5. Mais les sèches et les polypes la rejettent par le creux qui est placé au-dessus de ce qu'on appelle leur tête. Paragraphe 6. On a, du reste, donné tous ces détails avec plus de précision dans l'histoire des animaux. Tout ce qu'on a voulu établir ici, c'est que les animaux dont la nature est de vivre dans l'eau ne reçoivent le liquide en eux que parce qu'il faut qu'ils soient refroidis et qu'ils doivent tous tirer leurs aliments de l'eau où ils vivent. Chapitre 13. Sommaire. Les animaux qui sont les plus élevés sont aussi ceux chez qui la respiration est la plus parfaite. Organisation supérieure de l'homme, ses privilèges. Importance générale des fonctions du poumon, ordre des êtres, leur rapport aux éléments. Paragraphe 1. Quant au refroidissement chez les animaux qui respirent et chez ceux qui ont des branchies, nous dirons plus tard quel en est le mécanisme. Nous avons déjà dit que tous les animaux qui ont un poumon respirent, ce qui fait que quelques animaux ont reçu cet organe et que ceux qui le possèdent ont besoin de respiration, c'est que les animaux les plus élevés ont aussi en partage plus de chaleur que les autres et, par une conséquence nécessaire, ils doivent être doués en même temps d'une âme également plus relevée. En effet, la nature de ces êtres est forte au-dessus de celle des plantes. Paragraphe 3. Voilà encore pourquoi les animaux qui ont le poumon rempli de sang et très chaud ont aussi des dimensions plus grandes. Et l'homme qui, parmi tous les animaux, a le sang le plus pur et le plus abondant, est aussi celui de tous qui est le plus droit. En outre, il est le seul qui ait le haut du corps dans le même sens que le haut du monde entier, parce qu'il est aussi le seul qui ait cette partie de son organisation, le poumon, ainsi disposé. Paragraphe 4. Par conséquent, il faut penser que le poumon est pour l'homme aussi bien que pour tous les autres animaux une cause d'existence non moins efficace qu'aucun autre organe. Voilà donc pourquoi le poumon leur a été donné. Paragraphe 5. Il faut penser, de plus, que la cause nécessaire qui est produite par le mouvement a composé aussi les animaux de cette façon, comme elle a encore composé d'une façon toute différente beaucoup d'autres êtres. Ainsi, dans la constitution des uns, Il entre plus de terre comme dans les plantes. Et dans celle des autres, c'est l'eau qui prédomine comme dans les aquatiques. Quant aux oiseaux et aux animaux terrestres, les uns sont formés d'air et les autres de feu, et chacun d'eux a sa place régulièrement assignée dans des lieux qui lui sont propres. Chapitre 14. Sommaire. Réfutation de l'opinion d'Empédocle soutenant que les animaux dont la température est la plus chaude sont aquatiques. Les animaux aquatiques sont au contraire plus froids. Influence des lieux et leurs rapports généraux avec l'organisation. Paragraphe 1. Empédocle n'a pas été heureux dans ses explications quand il a soutenu que les animaux qui ont le plus de chaleur et le plus de feu sont aquatiques. À l'en croire, ils échappent ainsi à l'excès de la chaleur qui est dans leur nature parce que, en ayant en eux trop peu de froid et d'humidité, ils rétablissent l'équilibre par le lieu dans lequel ils vivent et qui a la qualité contraire à la leur. Car l'eau, ajoute-t-il, est chaude, mais moins que l'air. Paragraphe 2. Une objection générale contre sa théorie, c'est qu'il est tout à fait impossible de comprendre comment chacun de ces animaux qui sont nés à sec sur la terre, ont pu changer de lieu et aller dans les eaux, puisque la plupart d'entre eux sont privés de pieds. Et pourtant, Empédocle, en rendant compte de leur constitution dès leur origine, n'en prétend pas moins qu'ils naissent à sec et qu'ils s'enfuient sur le champ dans l'eau. Paragraphe 3. D'un autre côté, il ne paraît pas non plus que les animaux aquatiques soient plus chauds que les animaux terrestres, car en général, ou ils sont tout à fait privés de sang, ou ils en ont très peu. Paragraphe 4. Quant à la question de savoir quels sont les êtres qu'il faut appeler chauds et froids, elle a été traitée spécialement. La cause qu'Empédocle indique contient en partie l'explication cherchée. Mais ce qu'il dit n'est pas cependant parfaitement exact. Paragraphe 5. Il est bien vrai que les lieux et climats qui ont, à un degré éminent, les qualités contraires à celles de l'animal, contribuent à le conserver. Mais il n'en est pas moins certain que la nature de tout être se conserve surtout dans les lieux qui lui sont particulièrement propres. C'est que la matière dont est formée chaque espèce d'animal n'est pas plus identique dans tous que ne le sont les qualités et les dispositions de cette même matière. Je m'explique. Par exemple, si la nature composait un être en cire, elle ne le conserverait pas en le plaçant dans la chaleur, non plus que si elle y plaçait quelque animal en glace, car cet être y périrait bientôt par son contraire, parce que le chaud détruit tout ce qui est formé de son contraire. Si elle avait fait quelque animal de sel ou de salpêtre, elle ne s'en irait pas certainement davantage le placer dans l'eau, parce que l'eau détruit les corps composés de chaud et de sec. Paragraphe 6. Si donc le sec et l'humide sont la matière de tous les corps sans exception, il est tout simple que ceux qui se composent de froid et d'humide soient dans les eaux, et s'ils sont froids, ils seront dans le froid, comme ceux qui sont formés de l'élément sec doivent être dans le sec. Paragraphe 7. Voilà pourquoi les arbres poussent non pas dans l'eau mais dans la terre. Et cependant, d'après la même théorie, il faudrait qu'ils vinssent dans l'eau, puisqu'ils sont excessivement secs, comme y viennent, au dire d'Empédocle, les êtres excessivement ignés. Car ce n'est pas parce que l'eau est froide que les arbres y pousseraient, mais parce qu'elle est humide. Paragraphe 8. Ainsi donc, les natures diverses de la matière, dans quelque lieu qu'elles soient placées, sont ce qu'est ce lieu. Humide dans l'eau, sèche sur la terre, chaude dans l'air. Mais cependant, les qualités de cette matière se conservent mieux quand elles ont un excès de chaleur dans le froid et quand elles ont un excès de froid dans la chaleur. Parce qu'alors, le lieu rétablit en un juste équilibre l'excès de la qualité. Il faut donc que les êtres cherchent cet équilibre dans les lieux qui sont particulièrement propres à chaque organisation et selon les variations du climat commun. Il se peut bien que les qualités de la matière soient en opposition avec les lieux, mais la matière elle-même ne saurait jamais y être. Paragraphe 9. Ce n'est donc pas à cause de la chaleur que parmi les animaux, les uns sont aquatiques et les autres terrestres, ainsi que le prétend Empédocle. Ce que nous avons dit suffit pour le prouver, et aussi pour expliquer comment les uns ont un poumon et les autres n'en ont pas. Chapitre 15. Sommaire. Organisation et fonction du poumon dans les animaux les plus élevés. Paragraphe 1. Mais pourquoi les animaux qui ont un poumon reçoivent-ils l'air et respirent-ils, surtout ceux qui ont le poumon rempli de sang? Paragraphe 2. Ce qui fait d'abord qu'ils respirent, c'est le poumon qui est spongieux et plein de tuyaux. Il est la partie qui, parmi celles qu'on appelle les viscères, a le plus de sang. Paragraphe 3. Mais tous les animaux qui ont du sang dans le poumon ont besoin d'un refroidissement rapide, parce que chez eux, l'action du feu vital est très mobile et qu'il peut pénétrer dans tout l'intérieur de l'animal à cause de la quantité même du sang et de la chaleur. Or, l'air peut très aisément aussi remplir à la fois l'une et l'autre de ses fonctions. Comme sa nature est très légère, il pénètre tout l'animal et il le refroidit en s'y glissant rapidement, tandis que l'eau ferait tout le contraire. Paragraphe 4. Ce qui explique bien clairement pourquoi les animaux qui ont du sang dans les poumons sont ceux qui respirent davantage, c'est que ce qui est plus chaud a besoin de plus de refroidissement et en même temps, le souffle se rend aisément jusqu'au principe même de la chaleur qui est dans le cœur. Chapitre 16. Sommaire. Rapport du cœur aux poumons et aux branchies, observations anatomiques. Le cœur est placé de même chez les animaux terrestres et chez les aquatiques. Détails de cette organisation. Les animaux meurent quand le jeu du poumon et des branchies vient à cesser. Paragraphe 1. Quant à la communication des trous du cœur avec le poumon, il faut à la fois et recourir aux observations anatomiques et étudier ce qui en est écrit dans l'histoire des animaux. Paragraphe 2. En général, la nature des animaux a grand besoin de refroidissement à cause de l'incandescence de l'âme qui est placée dans le cœur. Tous ceux qui ont non seulement un cœur, mais aussi un poumon, se procurent le refroidissement nécessaire par la respiration. Ceux qui, tout en ayant un cœur, n'ont pas de poumon, comme les poissons, parce que leur nature est aquatique, se procurent ce refroidissement dans l'eau même par les moyens de branchies. Paragraphe 3. Pour savoir quelle est la position du cœur par rapport aux branchies, il faut l'observer directement sur les dissections. Et pour avoir des détails précis, on peut recourir à l'histoire des animaux. Mais pour ne faire ici qu'un résumé, voici comment les choses sont disposées. D'abord, il paraît au premier coup d'œil que le cœur n'a pas la même position dans les animaux terrestres et dans les poissons, et cependant il est placé de même. Ainsi, le cœur a toujours sa pointe tournée vers cette partie où l'animal meut la tête. Mais comme la tête ne se meut pas de la même façon chez les animaux terrestres et chez les poissons, le cœur chez ces derniers a la pointe tournée vers la bouche. Paragraphe 4. Le tuyau véno-nerveux, qui, dans les poissons, part de l'extrémité du cœur, va se rendre au point central où toutes les branchies viennent se réunir les unes avec les autres. Ce tuyau est très grand. De chaque côté du cœur, il y a d'autres tuyaux qui vont à l'extrémité de chacune des branchies, et c'est par eux que se fait le refroidissement du cœur, l'eau ne cessant de passer au travers des branchies. Paragraphe 5. De même aussi dans les animaux qui respirent, la poitrine s'élève et s'abaisse par un mouvement alternatif quand ils reçoivent et rejettent l'air qu'ils respirent, comme le font les branchies dans les poissons. Paragraphe 6. Les animaux qui respirent sont promptement étouffés quand ils ont trop peu d'air et quand ils n'en changent pas, parce que l'air et l'animal deviennent bien vite très chauds. C'est le contact du sang qui les échauffe tous deux. Une fois que ce sang est chaud, il empêche le refroidissement, et alors les animaux qui respirent, ne pouvant plus faire agir le poumon, ni les poissons, leurs branchies, soit par souffrance accidentelle, soit par vieillesse, il faut que les uns et les autres terminent leur vie. Chapitre 17. Théorie générale sur la mort. Elle ne peut être qu'ou violente ou naturelle. La mort naturelle ne tient qu'à l'absence de la chaleur dans le cœur, état particulier du poumon et des branchies à ce moment. Cause de la rapidité et de la facilité de la mort dans la vieillesse. Maladie du poumon. Paragraphe 1. Tous les animaux sont donc soumis à cette loi commune de naître et de mourir. Paragraphe 2. Entre les modes divers suivant lesquels ces phénomènes s'accomplissent, il n'y a que des différences spécifiques, et la destruction elle-même n'est pas sans avoir ses nuances. Mais voici ce qu'elle a toujours de commun. La mort ne peut être que violente ou naturelle. Violente quand le principe qui la cause vient du dehors. Naturelle quand il est dans l'individu lui-même et que la constitution du poumon est altérée par un principe de ce genre et ne vient pas d'une maladie contractée accidentellement. Paragraphe 3. Dans les plantes, on nomme cette altération naturelle le dessèchement, et dans les animaux, on le nomme la mort. Or, la mort et la destruction sont pareilles dans tous les êtres dont le développement n'est pas incomplet. Mais si le fait est au fond le même, la manière dont il s'accomplit est différente. J'appelle être incomplet, par exemple, les œufs et les graines de toutes les plantes quand ces graines n'ont pas de racines. Paragraphe 4. Pour tous les êtres complets, la destruction ne vient que d'un défaut de chaleur dans cette partie où réside le principe de l'existence. Et c'est, comme on l'a dit antérieurement, le point même où se joignent la partie supérieure et la partie inférieure de l'animal. Chez les plantes, c'est le milieu entre la tige qui pousse et la racine. Dans les animaux qui ont du sang, Cette partie est le cœur, et dans ceux qui n'en ont pas, c'est la partie qui le remplace. Paragraphe 5. Il en est quelques-uns parmi eux qui ont ici plusieurs principes en puissance, bien qu'en acte, ils ne puissent jamais en avoir plusieurs. Voilà comment il y a des insectes qui vivent après qu'on les a divisés. Même parmi les animaux qui ont du sang, tous ceux qui ne sont pas très vivants peuvent vivre longtemps encore après que leur cœur leur a été enlevé. Telles sont les tortues qui, alors, marchent encore sur leurs pieds et traînent leur carapace. C'est que leur organisation n'est pas très parfaite et qu'elle se rapproche beaucoup de celle des insectes. Paragraphe 6. Mais le principe de la vie disparaît dans les êtres qui possèdent ce principe lorsque la chaleur, qui se confond en eux avec le principe vital, n'est pas suffisamment refroidie. Dans ce cas, comme on l'a répété plusieurs fois, cette chaleur se consume elle-même. Lors donc que le poumon se durcit chez les uns et les bronchies chez les autres, ici les bronchies, là le poumon, se dessèchent avec le temps et ils deviennent terreux. L'animal alors ne peut plus mouvoir ses organes, il ne peut ni les dilater ni les contracter. Et cet état continuant à s'accroître, le feu de la vie se consume et s'éteint. Paragraphe 7. C'est là ce qui fait que dans la vieillesse, les moindres accidents suffisent pour causer rapidement la mort. La chaleur est alors très faible, parce que la plus grande partie en a été dépensée pendant le cours de la vie. Du moment qu'il y a la plus petite surexcitation dans le poumon, la chaleur s'éteint très vite. Et si elle s'éteint ainsi, par le plus léger mouvement, c'est qu'en quelque sorte, il n'y a plus dans l'être qu'une flamme très faible et insensible. Paragraphe 8. Voilà aussi pourquoi, dans la vieillesse, la mort est sans douleur. L'animal meurt sans éprouver aucune souffrance violente, et la délivrance de l'âme se fait sans même qu'on la sente le moins du monde. Paragraphe 9. Toutes les maladies qui durcissent le poumon, soit par des tubercules, soit par des sécrétions, soit par l'excès d'une chaleur maladive, comme celle que donne la fièvre, rendent la respiration plus fréquente, parce que le poumon ne peut point assez complètement se dilater en s'élevant ni se contracter. Et enfin, quand les animaux ne peuvent plus du tout faire ce mouvement, ils meurent en rendant des soupirs. Chapitre 18. Sommaire. Définition générale de la naissance, de la jeunesse, de la vieillesse, de la vie et de la mort, rapportées toutes à la chaleur naturelle, selon qu'elle commence, subsiste ou s'éteint. Paragraphe 1. La naissance n'est donc que le premier conflit de l'âme nutritive avec la chaleur. La vie, c'est la persistance de ce conflit. La jeunesse, c'est le développement de cette partie essentielle qui refroidit l'animal. La vieillesse en est la destruction. La maturité de l'âge est le milieu entre l'une et l'autre. Paragraphe 2. La faim et la destruction, quand elles sont violentes, sont l'extinction et l'étouffement de la chaleur, qui peut en effet périr également par ces deux causes. Mais la destruction naturelle de cette même chaleur, quand elle se produit parce qu'elle a beaucoup duré et que son temps est complet, se nomme dans les plantes le dessèchement et dans les animaux la mort. La mort, qui vient de la vieillesse, et la consomption de cette partie devenue par l'action de l'âge impuissante à refroidir l'animal. Paragraphe 4. Nous avons donc expliqué ce que sont la naissance, la vie et la mort et les causes qui les produisent dans les animaux. Chapitre 19. Sommaire. Résumé sur les fonctions du poumon et des branchies. Paragraphe 1. Tout cela nous fait aussi comprendre, évidemment, pourquoi les animaux qui respirent sont étouffés dans l'eau et les poissons dans l'air. C'est que le refroidissement se produit chez les uns au moyen de l'eau, chez les autres au moyen de l'air, et que les uns et les autres en sont privés s'ils changent de lieu. Paragraphe 2. C'est là également la cause du mouvement des branchies dans les uns et du poumon dans les autres. Ces organes, en se dilatant et en se contractant, font que ceux-ci aspirent et expirent l'air et que ceux-là reçoivent et rejettent le liquide. Paragraphe 3. Enfin, la disposition de cet organe est telle qu'on va la décrire. Chapitre 20. Sommaire. Théorie de la palpitation du cœur et du pouls. Le pouls comparé à l'ébullition des liquides qui chauffent, simultanéité du battement des veines qui toutes dépendent du cœur. Paragraphe 1. Il y a trois phénomènes relatifs au cœur qui semblent avoir la même nature et qui cependant ne sont pas identiques. Ce sont la palpitation, le pouls et la respiration. Paragraphe 2. La palpitation est la concentration de la chaleur propre du cœur causée par le refroidissement qui peut être ou simplement excrétoire ou délabrant, comme dans la maladie appelée battement de cœur, dans d'autres maladies analogues et dans les grandes frayeurs. Ainsi, les gens frappés d'effroi sont tout refroidis dans les parties supérieures. La chaleur, en se réfugiant vers le cœur et en s'y concentrant, y produit cette agitation. Elle s'y presse en un si petit espace que parfois les animaux s'éteignent et meurent de peur. Et c'est une affection toute morbide. Paragraphe 3. Quant à la pulsation du cœur, qui est continuelle et ne cesse pas, comme on le voit, elle ressemble beaucoup à ce mouvement qu'on remarque dans les boutons et qui est accompagné de douleur, parce qu'un tel changement du sang n'est pas naturel. Ce mouvement a lieu jusqu'à ce que le malvenu à maturité suppure. Paragraphe 4. Ce phénomène n'est pas sans analogie avec l'ébullition. L'ébullition, en effet, se produit quand le liquide est vaporisé par la chaleur. Il se gonfle alors parce que la masse devient plus considérable. Dans les boutons qu'on n'ouvre pas, la pulsation s'arrête quand l'humeur, devenant plus épaisse, se change en pus. L'ébullition se termine par la chute du liquide hors du vase qui le renferme. Paragraphe 5. Mais pour le cœur, le gonflement causé par la chaleur dans l'humeur qui apporte sans cesse la nourriture produit le pouls, parce que ce gonflement soulève la membrane extérieure du cœur et ce mouvement se fait continuellement, parce que l'humeur dont se forme la nature du sang y arrive aussi sans interruption. Paragraphe 6. C'est dans le cœur, en effet, que le sang est d'abord élaboré. Et l'on peut voir ceci bien évidemment dans les premiers instants de la génération. Bien qu'alors les veines ne soient pas encore distinctement formées, le cœur se montre ayant déjà du sang. Et si le pouls est plus rapide dans les jeunes animaux que dans les vieux, c'est que dans les premiers, l'évaporation est plus considérable que dans les seconds. Paragraphe 7. Toutes les veines ont un battement et elles battent toutes en même temps parce qu'elles dépendent toutes du cœur. Comme le cœur est toujours en mouvement, les veines y sont aussi et leur mouvement est simultané tant que le cœur le leur donne. Paragraphe 8. Ainsi donc, la palpitation du cœur est le mouvement de résistance qui se fait à la concentration du froid, et le pouls est la vaporisation de l'humeur échauffée. Chapitre 21. Sommaire. Mécanisme de la respiration dans le poumon. Inspiration et expiration causées par l'action réciproque et contraire de l'air et de la chaleur vitale l'un sur l'autre. Mécanisme analogue des branchies. Quelques mots sur la santé et la maladie dont l'étude appartient aux naturalistes presque autant qu'aux médecins. Paragraphe 1. La respiration a lieu quand la chaleur augmente dans la partie où est le principe nutritif. Cette chaleur a besoin d'aliments comme toute autre chose, et même plus que toute autre, puisque c'est elle qui est cause que toutes les autres parties du corps s'alimentent. Paragraphe 2. Il faut donc nécessairement, quand elle s'augmente, qu'elle soulève l'organe où elle est. On pourrait du reste comparer assez bien la conformation de cet organe au soufflet dont on se sert dans les forges. Et de fait, la forme du cœur et celle du poumon ne s'en éloignent pas beaucoup. Ce dernier organe est double, car le principe nutritif doit être au centre de la force vitale. Paragraphe 3. Le poumon, en prenant plus de volume, se soulève. Et une fois qu'il est soulevé, il faut nécessairement que toute la partie qui l'entoure le souhaite aussi. C'est ce qui arrive évidemment quand on respire. On élève alors la poitrine parce que le principe qui est renfermé dans cette partie du corps en fait autant. Dans ce mouvement d'élévation du poumon, il arrive nécessairement, comme dans les soufflets, que l'air du dehors qui est froid y entre. Et par le froid qu'il apporte, il apaise et éteint l'ardeur excessive du feu. Paragraphe 4. De même que quand la chaleur s'augmentait, le poumon devait se soulever, de même quand elle diminue, il faut qu'il se contracte. Et au moment de cette contraction, l'air qui y était entré doit en sortir de nouveau. Il est froid quand il entre, il est chaud quand il sort, parce qu'il a été en contact avec la chaleur qui est dans cet organe. Ceci a lieu surtout chez les animaux qui ont le poumon rempli de sang, parce que le sang tombe sur les vaisseaux nombreux qui sont dans le poumon et qui ressemblent à autant de canaux. À chacun de ces vaisseaux correspondent autant de veines, de telle sorte que le poumon tout entier paraît plein de sang. Paragraphe 5. L'entrée de l'air dans le poumon se nomme inspiration et sa sortie expiration. Ce double mouvement se produit sans la moindre discontinuité tant que l'animal vit et continue de mouvoir régulièrement cet organe. Aussi la vie consiste précisément à inspirer et à expirer. Paragraphe 6. C'est absolument de la même manière qu'a lieu dans les poissons le mouvement des branchies. La chaleur qui pénètre le sang de ces parties venant à se soulever, les branchies se soulèvent également et laissent pénétrer l'eau. Une fois que l'eau est descendue au cœur par les vaisseaux et qu'elle l'a refroidie, l'animal contracte ses branchies et rejette le liquide. Mais la chaleur qui réside dans le cœur, se soulevant constamment, elle reçoit aussi constamment l'élément qui la refroidit. Paragraphe 7. Ainsi, vivre et ne pas vivre consiste en définitive pour les uns à respirer et pour les autres à recevoir l'eau. Paragraphe 8. Tel est à peu près tout ce qu'on avait à dire sur la vie et la mort et sur les divers phénomènes qui se rattachent à toute cette recherche. Paragraphe 9. Quant à la santé et à la maladie, il appartient non pas seulement aux médecins, mais encore jusqu'à un certain point aux naturalistes d'en expliquer les causes. Il doit savoir en quoi elles diffèrent et comment on en observe les différences. Et ce qui prouve bien que ce sont là des études tout à fait limitrophes, c'est qu'il n'y a pas un médecin habile et laborieux qui ne s'occupe des faits de la nature et ne croit devoir en tirer ses principes. De même que les plus habiles parmi les naturalistes aboutissent presque toujours à des principes de médecine. Fin du traité de la respiration et des opuscules.